Les Années-Lumière, édition du 6 décembre 2009. Inquiétude climatique, trop ou trop peu? À la veille de l'ouverture de la conférence de Copenhague, c'est la question dont on débat dans le Bar des Sciences, Radio-Canada, Québec Science. Bonjour, ici Yannick Villieu, l'équipe. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Alors, ce Bar des Sciences sur le climat, ce sera en deuxième heure d'émission. Mais pour commencer, on parle espace, Sophie-André Blondin.
En fait, on quitte l'espace et on revient sur Terre avec l'astronaute Robert Thirsk, qui est revenu sur notre planète après 6 mois à bord de la Station spatiale internationale.
Hugues de Roussan, le béton, c'est bon, c'est dur, c'est solide, sauf que parfois...
Yannick, le béton peut être contaminé, ce qui le rend friable et cassable. Quand l'air et l'humidité entrent en contact avec des minéraux comme la pyrite et la pyrotite, qui peuvent se retrouver dans le béton, eh bien, ça ne fait pas un bon ménage.
Chantal Srivastava, un auditeur se pose des questions d'absorption d'aliments.
La combinaison lait et chocolat est à proscrire, Yannick. Mais qu'en est-il pour le yogourt? La réponse d'un expert en la matière, le biochimiste Richard Béliveau.
Et pour terminer la première heure, nous aurons la chronique des Années-Lumière. Cette semaine, l'histoire et la sociologie des sciences avec Yves Gingras, qui lui aussi parle espace, parle technologie spatiale. Et en deuxième heure, donc, nous aurons notre Bar des sciences Radio-Canada Québec Sciences sur le climat. Mais tout de suite, le retour d'un homme qui a fait plus de 3000 fois le tour de la Terre. Alors après 6 mois à bord de la Station spatiale internationale et quelque chose comme effectivement, hein, Sophie-André Blondin, 3000 tours.
Autour de 3000 tours de la Terre.
Deux fois la Terre. Là. L'astronaute canadien Robert Thirsk est revenu sur Terre cette semaine. La capsule Soyouz, à bord de laquelle il prenait place, a touché le sol comme prévu dans une plaine du Kazakhstan. Ça se passait dans la nuit de lundi à mardi.
Oui, Thirsk a touché le sol à 2h17 avec ses coéquipiers Roman Romanenko, qui est un cosmonaute russe de deuxième génération. Son père était cosmonaute aussi. Frank DeWine aussi de l'Agence spatiale européenne était de la partie. Le mauvais temps a cloué les hélicoptères au sol au Kazakhstan, ce qui a empêché la récupération aérienne de l'équipage. C'est donc dans des véhicules tout-terrain qu'ils ont été transportés après avoir été extraits de la capsule du Soyouz TMA. Elle ressemblait en fait à une sorte de guimauve brûlée dans un champ après son passage dans l'atmosphère. Alors toute la nuit, à l'Agence spatiale canadienne, à Longueuil, on a pu suivre le retour de Bob Thirsk, premier astronaute canadien à faire un séjour prolongé en espace. J'y étais, pas au Kazakhstan, mais à Longueuil, en compagnie de Benoît Marcotte, qui est directeur général des opérations pour l'Agence spatiale canadienne. La description était retransmise depuis la NASA à Houston. Le directeur de l'Agence spatiale canadienne, Steve McLean, était en contact avec nous depuis Moscou. Et le docteur Jean-Marc Comtois, directeur du bureau des astronautes, a pu rejoindre, lui, Bob Thirsk, dans la plaine du Kazakhstan, où il a atterri. Il nous parlait aussi depuis là-bas. Alors voici donc un condensé des événements de la nuit.
Roman Romanenko, Frank DeWine and Bob Thirsk have now begun their journey back to Earth.
Alors bienvenue, merci d'être ici pour l'atterrissage de Bob. Continue à descendre à l'heure actuelle vers le Kazakhstan. À 1h49, le véhicule va se séparer en trois. Les deux autres modules vont brûler dans l'atmosphère, tandis que le module du centre est le module qui va atterrir tantôt avec des parachutes.
Touchdown. That's wonderful news. Thank you so much.
On est limité aujourd'hui à une récupération par des véhicules tout-terrain au sol.
À cause de la météo, est-ce que ça arrive souvent que les hélicoptères ne puissent pas se rendre?
C'est une question qu'on a posée et puis on nous dit que c'est absolument anormal. Normalement, la météo dans cet endroit-là du monde est toujours une belle météo et que de voir penser à des méthodes secondaires comme on a vu cette nuit est absolument anormal.
This is Mission Control Houston. Reports now from the Russian Mission Control Center indicate that the search and recovery forces have arrived at the Soyuz TMA-15.
On a un appel de Steve McLean, notre président, qui était à Moscou.
Et pour le moment, ils sont en train d'amener Roman dehors de la capsule. Mais on va voir. OK, ça c'est Bob qui est en train de sortir. On peut voir là-bas qu'il est en très bon état. Ils vont laisser dans une position comme ça, horizontale, pour un peu de temps, parce que ça fait 6 mois qu'il est en haut. Et au niveau du système vestibulaire, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Aussi, il y a quelque chose qui s'appelle orthostatic intolerance en anglais. Ça, c'est quelque chose qui est important de suivre aussi. Mais on peut voir ici qu'il est en très bon état. Ça, c'est merveilleux.
Pouvez-vous nous décrire les sensations physiques que vous savez qu'il ressent?
Pour moi, ça m'a pris avant durant 1 heure pour que tout le monde à côté de moi puisse dire que OK, il était stable, il peut marcher tout seul. Et même après 4 jours, c'est le 5e jour que je ne sens pas les effets. Dans le cas de Bob, qui a volé 6 mois dans l'espace, ça peut prendre jusqu'à 6 mois avant qu'il se sente complètement normal. Il y a des choses avec le... Ça, c'est Frank Lewin. On peut voir aussi qu'il est en bon état. Mais il y a des autres problèmes aussi avec le mal de dos. Il y a plusieurs astronautes qui avaient mal de dos parce qu'ils n'ont pas utilisé les muscles dans le dos. Et ça prend environ 30 jours pour ça d'améliorer. Et le Canada, comme les autres pays, on a un programme d'entraînement pour Bob pendant les 30 jours pour s'adapter à la Terre. Et Jean-Marc, il va être là bientôt. Jean-Marc Antoine, c'est notre surgeon de vol pour la mission.
Jean-Marc, bonjour. C'est Benoît avec des gens ici à l'Agence spatiale canadienne.
Présentement, je suis avec Bob. Et Bob se sent très bien. Il me disait qu'il a eu un très beau séjour sur la station spatiale et que tout s'est passé nominalement pour la réentrée, quoiqu'il avait ressenti beaucoup la force de la gravité qui sont arrivées.
À quoi est-ce que vous vous attendez? Est-ce que vous allez continuer à le suivre? Est-ce que vous allez continuer à regarder, par exemple, sa masse musculaire, ses maux de dos, des pertes osseuses, s'il y en a? Est-ce que vous allez continuer à suivre?
Oui, ça va être fait à plus long terme, cependant. Il va y avoir un examen un peu plus approfondi lorsqu'on arrivera à Moscou pour voir exactement où ce qui en est rendu au point de vue masse osseuse, masse musculaire, endurance et tout ça. Mais ça ne sera pas fait ici sur place dans le champ.
Docteur Contois, pour vous, le voyage de 3h30 a été un peu moins confortable à cause de la météo. Vous n'étiez pas en hélicoptère, mais qu'est-ce qu'on sait de la perception de la douleur pour les cosmonautes et astronautes qui doivent faire le trajet eux aussi dans un véhicule tout-terrain au lieu de partir en hélicoptère?
Les autres, ils vont être confortables. Ils sont couchés et on va aller beaucoup plus tranquillement. On n'ira pas aussi vite. Le plus gros problème qui peut faire face, c'est peut-être des nausées, parce qu'il y a beaucoup de vertiges après qu'on retourne de l'espace. Ça prend quelques jours à se réadapter. Alors, il va y avoir des risques de nausées, mais on va prendre ça tranquillement par vite.
Merci.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
The three crew members are in all-terrain vehicles. The three crew members will be driven back to Arcolic.
Ça, c'est un véhicule qu'ils utilisent pour transporter les cosmonautes. Et dans ce cas, Bob.
Vous avez l'impression d'accueillir un astronaute canadien, le dernier pour un grand bout de temps. Est-ce que vous avez l'impression de vivre un moment que vous ne revivrez pas pour longtemps?
Non, je dois dire pour le Canada, 6 mois dans l'espace maintenant, c'est quelque chose de très, très important. On a une série de crédits pour voler les autres astronautes. L'espérance de la station maintenant, c'est jusqu'à 2020. Ça se peut qu'on va allonger ça jusqu'à 2025. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de négocier. Et j'espère que le Canada, dans ce cas-là, a peut-être 2 vols de plus pendant ce temps-là. On va voir. Ça, c'est quelque chose à l'avenir.
Merci, Steve.
Pendant ce temps, à bord de la Station spatiale internationale, il ne reste que 2 personnes. On a eu jusqu'à 13 occupants, donc on affichait absolument complet sur la Station spatiale internationale. On disait, ça y est, on est en mode opérationnel, on peut faire plus de science, moins de maintenance. Et là, on se retrouve à 2. Qu'est-ce qui se passe? Pendant quelques temps, on ne fait que de la maintenance et peu de science.
Ben, disons que les 2 personnes qui restent à bord vont devoir se concentrer tout d'abord sur les activités principales pour pour s'assurer que la station continue à fonctionner d'une façon normale. Cette situation-là est un peu anormale et tout ça découle du fait qu'en septembre dernier, il y a une des missions qui a été lancée avec deux astronautes qui s'en allaient à la station spatiale et un touriste, M. Guy Laliberté. Donc, à un moment donné, cette personne-là est manquante, la troisième personne qui aurait dû être là, et c'est ça qui nous amène à une situation où nous sommes deux à bord. Jusqu'au prochain lancement, on a trois personnes qui s'en viennent à la station spatiale le 21 décembre, donc on va retourner à un équipage de cinq jusqu'au printemps prochain, et après ça, on va rétablir la situation avec six à bord.
Docteur Comtois, vous avez parlé il y a environ 5 heures au moment où vous arriviez et vous veniez de parler à Robert Thirsk. Depuis ce temps-là, vous avez passé un long voyage dans un VTT, dans un terrain difficile. Comment s'est passé le voyage?
C'est une très bonne question. J'avais quand même des craintes assez prononcées avant de partir, mais nos collègues russes sont des professionnels. Bob, il s'est probablement mieux senti que moi je me sentais. Il était couché. Il a dormi comme un bébé tout le long. Moi, j'étais assis et je vous avoue que je commençais à avoir mal aux fesses. Hein.
Bob Thirsk, wrapping up his second flight. Thirsk now having logged 205 days in space on his two flights.
Alors, Sophie-André a une belle nuit, effectivement.
Oui, belle nuit.
Alors, on comprend que Robert Thirsk, l'astronaute, a été un peu trop étourdi quand même pour s'adresser tout de suite à vous, aux journalistes, aux Canadiens en général. Hein?
Oui, il a fallu attendre 2 jours. Donc, 2 jours plus tard, de retour à Moscou, Robert Thirsk nous a parlé via satellite. Il m'a raconté, pour commencer, les 20 dernières minutes qu'il a passées à bord de la capsule Soyouz.
Imaginez-vous entassé dans une Beetle de Volkswagen et sur le dos d'un cheval de rodeo ou sur les rails d'une montagne russe pendant un spectacle de laser et lumière. Tout cela en même temps. Multipliez tous ces effets par 10 et c'est comme les dernières 20 minutes pendant l'atterrissage de Soyouz.
Alors, c'est assez intense. Et une fois que vous êtes arrivé, dans quel état physique et psychologique étiez-vous?
Maintenant, je sens forte. Mais les premières heures après l'atterrissage, je me sentais faible et j'ai expérimenté beaucoup d'étourdissements. C'est difficile de marcher. J'ai eu l'impression que les personnes bougent le plafond. Mais maintenant, l'étourdissement est diminué et je sens fort. Psychologique, je vis avec ma famille ici, les cités d'étoiles. Et tout est parfait maintenant.
Vous avez l'expérience des deux types de séjours en espace, de plus courte durée et de plus longue durée. Est-ce que le temps, est-ce que la durée est un facteur important dans le nombre et l'intensité des effets physiologiques de l'apesanteur? Sentez-vous une grosse différence dans votre corps du fait d'avoir séjourné si longtemps en apesanteur?
Absolument. Pendant une mission de courte durée, les effets sont principalement le système cardiovasculaire, le système vestibulaire. Mais pour les missions de longue durée, les effets principaux sont contre les systèmes muscles et les os. Et aussi, bien sûr, les effets psychologiques. La dernière chose pendant une mission de longue durée, c'est les effets de rayonnement.
Vous preniez des médicaments. Est-ce que vous avez remarqué une différence, entre autres, sur la masse osseuse? Est-ce que vous remarquiez une différence entre les effets de la pesanteur sur vous qui preniez des médicaments et sur vos collègues dont vous étiez le médecin à bord?
Nous n'avons pas à ce moment tous les résultats des expériences. Ça prend quelques mois. Mais je peux dire que maintenant je sens forte. Plus forte, je pense, que les astronautes passaient à cause de nouvelles machines d'exercice à bord de la station spatiale nommée ARED, Advanced Resistive Exercise Device. Et je suis sûr que cette nouvelle machine est responsable pour les forces musculaires. Mais les médicaments, maintenant, les effets, c'est difficile de dire. Ça prendrait quelques mois.
Est-ce que vous avez fait toute la science que vous vouliez faire à bord ou est-ce que la maintenance, l'entretien, les pépins mécaniques ont pris plus de temps que prévu?
Oui, c'est la chose. Je suis très fier de toutes les sciences que nous avons accomplies pendant cette expédition. Plus de 100 expériences ont été complétées pendant cette expédition. Jamais dans l'histoire de la station spatiale, this was not possible prior to 6 people aboard the station. Mais nous avons entré une nouvelle ère de ce programme. Je suis très fier. Mais comme tous les astronautes, ce n'est pas possible de fonctionner seulement comme un médecin ou seulement comme un chercheur à bord de la station. C'est important d'être un généraliste. Et pour cette raison, j'ai fait les réparations et j'ai fait faire fonctionner les systèmes de station spatiale et d'autres choses.
Monsieur Thirsk, l'exploration, l'innovation, l'éducation, c'était déjà les trois thèmes de votre mission. L'exploration à court terme pour les Canadiens, pour les vols habités, ne semble pas très optimiste. Est-ce que vous êtes optimiste? Vous semblez parler d'un avenir pour les vols habités avec des astronautes canadiens. Comment le percevez-vous? Comment le voyez-vous?
La chose qui sont le plus important, c'est d'avoir un rêve. Un rêve dans les cœurs, dans l'esprit de toutes les personnes engagées dans notre programme spatial. À ce moment, dans l'histoire du Canada, c'est difficile de planifier les nouveaux aventures dans l'espace. Le Canada n'est pas un chef du programme station spatiale et notre prochaine étape dépend sur les prochaines pensées, étapes des États-Unis, et les Russes et les Européens. Ça prendrait quelques mois, quelques années pour décider la prochaine étape. Le Canada sera un membre de cette grande équipe.
Vous voudriez que le Canada prenne plus de place qu'il n'en prend actuellement?
C'est toujours important d'améliorer nos capacités comme individuelles et aussi comme pays. Et je suis fier de notre contribution robotique à la station spatiale. Mais c'est important de considérer les systèmes robotiques comme une fondation pour les prochaines étapes.
Je reviens à vous. Vous êtes encore branché. J'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi, deux jours après votre retour, on vous voit comme ça sur vidéoconférence avec des électrodes ou en tout cas des instruments branchés sur vous.
Nous avons beaucoup des chercheurs qui sont intéressés dans la réadaptation du corps humain aux terres après une mission de longue durée. Les systèmes cardiovasculaires, les systèmes musculaires réadaptent aux terres pendant quelques heures, quelques jours ou quelques mois après l'atterrissage. Et maintenant, je porte quelques instruments afin de mesurer la pression du sang et le fonctionnement du corps et d'autres endroits du corps aussi. C'est important de mesurer les réadaptations aux terres.
L'astronaute canadien Robert Thirsk, donc de retour sur Terre après sa mission de 6 mois quand même à bord de la Station spatiale internationale.
Oui, l'année a été faste pour le Canada, mais il se passera du temps avant qu'on ne suive un autre Canadien en espace. Comme l'a dit Steve McLean un peu plus tôt de l'Agence spatiale canadienne, si la Station spatiale internationale voit sa durée de vie étendue jusqu'en 2025, ce qui n'est pas décidé encore, le Canada aurait normalement les crédits pour envoyer 2 astronautes vers la Station spatiale.
Merci beaucoup, Sophie André.
Merci, Annick.
Ici Lily Marin, journaliste au site Internet des Années-Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radio-canada.ca/lumière. Et vous pouvez même emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet. Il n'y a plus d'excuses pour manquer les années-lumière avec Annick Villedieu.
Cette semaine, les médias ont rapporté que 222 maisons dans la région de Trois-Rivières avaient des problèmes de fondation. Pourquoi bien? Parce que le béton utilisé pour construire les fondations en question contenait de la pyrite et de la pyrotite. Les dégâts sont irréversibles et c'est une histoire qui nous en rappelle une autre, hein, Hugues de Roussan.
Oui, un peu d'histoire. Retournons autour de l'an 2000 où il y avait eu des milliers de maisons qui avaient eu des problèmes de sous-sol sur la rive sud de Montréal.
Oui.
À l'époque, c'était un problème de pyrite qui se trouvait dans le remblai sous les maisons. La pyrite gonflait, exerçait une pression sous les dalles de béton dans les sous-sols et cela causait des fissures. Mm-hmm. Il y a 5 ans, dans la région de Trois-Rivières, une quinzaine de maisons aussi avaient été touchées, mais dans leur cas, la pyrite était contenue non pas dans le remblai sous les maisons, mais bien dans le béton même des fondations. Et cette fois-ci, toujours à Trois-Rivières, c'est encore une fois un problème de béton dans les fondations de maisons, mais cette fois, ce n'est pas la pyrite qui est la cause, mais bien la pyrotite.
Pyrite, on connaît, mais la pyrotite, c'est quoi ça?
Mais en fait, ce sont deux minéraux différents, mais qui sont cousins, qui sont très proches. On les trouve d'ailleurs souvent ensemble, et les deux n'aiment ni l'eau ni l'humidité. Et Jean Beaulieu, qui est professeur de génie géologique à l'École polytechnique de Montréal, nous explique les deux minéraux.
La pyrite est un minéral, un sulfure de fer, donc un minéral métallique, avec là très métallique, couleur jaune-blanc, jaune-laiton, appelé l'or des fous. On le trouve souvent un peu partout dans les roches, soit ignées, c'est-à-dire dans des granites, dans des gabbros, dans des roches mafiques, dans des roches sédimentaires aussi, les calcaires, les shales, des roches argileuses qui sont de granulométrie très fine, composées de beaucoup de minéraux d'argile. Les deux comme tels ont pratiquement la même formule chimique. Il y en a un, la pyrite, c'est un atome de fer avec deux atomes de soufre. La pyrotite, c'est un atome de fer, un atome de soufre et même une fraction d'un atome de soufre. Donc, les deux sont souvent très associés. Ces deux sulfures de fer qui sont très près l'un de l'autre. Donc, lorsqu'on observe de la pyrite, on voit souvent aussi de la pyrotite qui est associée.
Mm-hmm.
Ou lorsqu'on retrouve de la pyrotite, on retrouve aussi de la pyrite. Et ils se comportent pratiquement de la même façon.
Dans le cas qui nous préoccupe, vous l'avez dit, on a retrouvé les deux minerais, hein, Hugues, dans le béton des fondations et la pyrite et la pyrotite.
Effectivement, Yannick, ces deux minéraux se trouvaient dans la roche concassée qui a été utilisée dans la fabrication du béton. Cette roche, c'était un granit noir, un gabbro anorthosite. Et cette fois, c'est bien la pyrotite et non la pyrite qui est responsable des dommages causés au béton. Marc-André Bérubé est expert conseil dans le domaine des matériaux de construction. Il est ingénieur géologue et il a enseigné pendant 28 ans au département de génie géologique à l'Université Laval.
Ces roches-là contiennent les deux. À la fois la pyrite et la pyrotite, qui sont quand même assez voisins, ces deux sulfures de fer, et qui n'ont pas tout à fait la même réactivité. Moi, j'ai fait à peu près une quarantaine de cas problématiques dans la région de Trois-Rivières, et puis jamais la pyrite n'a montré des signes de réaction, alors que la pyrotite, qui lui est accolée bien souvent, là, mélangée sous forme de petits grains de l'ordre d'un millimètre et parfois plus, là, parfois montre des signes de transformation presque complète. Donc, c'est vraiment la pyrotite là, qui est réactive dans ce cas-là. Ça fait depuis 1988 que j'ai écrit dans mes différentes publications que la pyrotite est beaucoup plus réactive que la pyrite. Là. Et puis, ça se visualise aujourd'hui. Là.
Dans quelles circonstances cette pyrotite change de forme, se transforme ou réagit?
C'est tout simplement en présence d'humidité et d'air et d'oxygène. Un peu comme la pyrite dans les remblais sous-dalles, mais la pyrotite fait exactement la même chose. Elle s'oxyde en présence d'humidité et d'air pour se transformer en limonite. En fait, c'est de la rouille. Et puis aussi des sulfates de fer. C'est à peu près les mêmes réactions qu'avec la pyrite, là, mais c'est plus rapide dans le cas de la pyrotite.
Est-ce qu'il y a un moyen, si jamais on découvrait qu'il y avait de la pyrotite dans un granit, de les séparer?
Non, c'est à peu près impossible de faire la séparation. En fait, quand on fait du béton, généralement, on concasse la pierre à une taille comprise entre 5 et 20 mm. Et puis, les petits grains de pyrotite là-dedans, généralement, sont inférieurs au millimètre. Là. C'est des petits agglomérats là, de grains là, qui se trouvent à l'intérieur de ces particules de 5 à 20 mm. On ne pourrait pas les séparer physiquement ou d'une autre façon. Là.
Est-ce qu'on devrait utiliser ce granit qui a de la pyrotite?
Le nom exact géologique, c'est quand même un gabbro anorthosite là, qui est quand même généralement assez foncé. La plupart des granites sont beaucoup plus pâles et ne contiennent pas de pyrotite. Ils peuvent contenir un peu de pyrite, là, mais ne contiennent pas de pyrotite. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème à les utiliser. Il y a des carrières, même dans la région de Trois-Rivières, qui contiennent un peu de pyrotite et qui ne causent pas de problème et qui sont utilisés depuis une cinquantaine d'années sans aucun problème. Puis, il y a déjà des normes. Il y a une norme européenne qui établit la quantité maximale de sulfure de fer, en fait, qui englobe pyrite, pyrotite là, et d'autres minéraux de la même nature, là, On dit que la quantité maximale de sulfure qu'on devrait permettre dans un granulat à béton, c'est 1%. Par contre, c'est abaissé à 0,1%, donc 10 fois moins, dans le cas où c'est plutôt de la pyrotite là, que de la pyrite.
Pyrite 1%, pyrotite 0,1%. 10 fois moins, donc.
Ouais.
Alors, Hugues, on vient de l'entendre, il y a des normes en Europe là-dessus. Au Québec, c'est quoi?
Non, Yannick, ici, il n'y a pas de normes chiffrées et c'est en fait là tout le problème. Dans le cas des maisons à Trois-Rivières, les tests ont révélé des concentrations de pyrotite beaucoup plus élevées que les normes européennes. Bruno Nantel est directeur général à l'APCHQ, l'Association provinciale des constructeurs d'habitation du Québec.
En ce qui concerne le béton, il y a une norme nationale qui dit essentiellement de faire attention aux granulats qui auraient des propriétés expansives. Et elle les nomme pyrite, pyrotite, chalcopyrite. Et donc, c'est laissé au jugement d'un professionnel à savoir si les pierres sont aptes à être utilisées dans le béton. On sait qu'au Québec, à peu près toutes les pierres utilisées dans le béton en contiennent un peu, sans problème. La question est de savoir jusqu'où on peut aller.
Et jusqu'où vous pouvez aller en termes de pourcentage dans une pierre?
Ce qu'on a devant nous à Trois-Rivières, c'est une présence non pas de pyrite qui est la problématique, mais de pyrotite. Et la norme là-dessus est muette. Là, il n'y a pas de pourcentage qui est prévu là. Tout ça à quoi on peut se référer, c'est une norme européenne qui dit qu'au-delà de 0,1% de pyrotite, on ne devrait pas utiliser cette pierre-là pour le béton. Maintenant, est-ce qu'on a exactement la même constitution de roche ici? Je suis pas qualifié pour y répondre. Mais il est certain que les concentrations qu'on retrouve en ce moment en pyrotite, c'est-à-dire 1,5-4%, apparaissent très élevées et sont la cause du problème.
Donc, s'il n'y a pas de normes actuellement au Québec ni au Canada, sur quoi se baserait, par exemple, un entrepreneur pour dire « Voici ma pierre concassée, je vous garantis la qualité de ma pierre concassée et ça, il n'y aura pas de problème une fois qu'elle sera coulée en béton. »
Nous, on a recommandé aux entrepreneurs, évidemment, de la région de Trois-Rivières d'exiger de voir des attestations de conformité de professionnels qui seraient signées suite à des examens pétrographiques des pierres. Donc, c'est des examens plus poussés là, au microscope électronique. Là. Et puis donc, c'est un jugement professionnel qui est exigé pour être capable d'attester.
Mais ce jugement professionnel, il dit quoi? Parce que si il y a un jugement en fonction de normes établies, c'est relativement facile à faire. Mais s'il n'y a pas de normes, comment fait-il pour dire que cette pierre est bonne ou pas bonne?
En fait, il y a une norme. Il faut comprendre que les normes en Amérique du Nord se sont déplacées vers des normes de performance et on a de moins en moins de normes avec des virgules 0,1 ou des points 0,4. Et donc, on recherche des objectifs et une performance escomptée. Donc, dans la norme qui traite du béton, ce qu'on dit, c'est qu'on ne doit pas utiliser un matériau qui causerait un gonflement excessif, notamment la pyrite, pyrotite et la chalcopyrite.
Alors Hugues, une fois que le béton est attaqué de cette façon-là, est-ce que ça se répare, ça?
Eh bien Yannick, on ne connaît pas de technique pour arrêter le processus d'oxydation, car une fois qu'il est commencé, il se poursuit jusqu'à la fin. Donc tant qu'on ne trouvera pas de solution, il faudra remplacer complètement les fondations.
Merci beaucoup Hugues. Vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. À venir en deuxième heure, le bar des sciences, Radio-Canada Québec Science, sur le climat et les inquiétudes climatiques.
Dans les années 50, on était à 1 ou 2 milliards de tonnes de carbone émis dans l'atmosphère chaque année. 2008, on était à près de 10 milliards de tonnes de carbone. Donc l'augmentation de ce qu'on émet dans l'atmosphère est colossale et ça continue de se stocker. Et les effets essentiels, quand on parle du réchauffement climatique, l'effet essentiel, c'est un effet futur.
C'est maintenant l'heure du facteur. Voici la question de la semaine.
Bonjour, je m'appelle John Carrihy, j'habite à Toronto. Dans le livre de Richard Béliveau et Denis Gingras, La santé par le plaisir de bien manger, on dit que le lait empêche l'absorption et l'utilisation des polyphénols qu'on trouve dans le thé vert ou dans le chocolat noir. Est-ce que c'est la même chose pour le yogourt empêche-t-il aussi l'absorption des polyphénols? Merci et salut.
Bonne question, hein, cet auditeur de Toronto. Donc, Chantal de Srivastava a joint le biochimiste Richard Béliveau, justement, qui est un des deux auteurs du livre cité, La santé par le plaisir de bien manger. Richard Béliveau dirige le laboratoire de médecine moléculaire à l'Université du Québec à Montréal.
Bonjour, Monsieur Béliveau.
Bonjour.
Alors, première chose, est-ce que le lait empêche vraiment l'absorption et l'utilisation des polyphénols qu'on trouve dans le thé vert et dans le chocolat noir, comme se le demande notre auditeur?
Oui, c'est un article qui a été publié dans Nature que nous avons rapporté dans nos livres. En fait, c'est pas avec les polyphénols du thé, c'est avec les proanthocyanidines du chocolat noir.
C'est-à-dire?
Ce sont les polyphénols qu'on retrouve dans le chocolat, pas dans le thé. Donc, l'étude rapportait que lorsqu'on prend du lait en même temps que le chocolat, il y a des protéines dans le lait qui s'appellent les protéines riches en proline, comme la caséine. Ça forme un complexe insoluble et ça chélate les proanthocyanidines du chocolat noir, ce qui les rend insolubles et c'est évacué dans les selles. Ce qui fait que, probablement la raison pour laquelle les Mayas, les Aztèques et tous les gens d'Amérique centrale qui consommaient du chocolat ne buvaient pas de lait en même temps, c'est une invention que les Européens ont ajouté plusieurs centaines d'années après que les gens d'Amérique centrale aient consommé le chocolat, l'addition de lait. Malheureusement, ça enlève tous les bénéfices du chocolat. Maintenant, nous, on a vérifié ça avec les polyphénols du thé et on ne voit pas cet effet-là avec les polyphénols du thé. Probablement parce que les polyphénols du thé sont de plus petites molécules et c'est probablement la nature polymérique des proanthocyanidines du chocolat qui rend leur précipitabilité plus élevée avec les protéines que ne le font les petites molécules que sont les catéchines que l'on retrouve dans le thé. Donc, pas de problème avec le thé, mais avec le chocolat, c'est à faire avec précaution. Donc, espacez le moment où vous prenez votre verre de lait et votre morceau de chocolat noir pour votre pause santé au milieu de l'après-midi.
Espacez de combien de temps?
Il n'y a pas eu d'études là-dessus, mais on peut penser que la vidange gastrique, ça dépend de ce que vous avez mangé, mais ça veut dire au moins de quelques heures.
Les polyphénols, on peut peut-être prendre quelques secondes, M. Béliveau, pour insister donc sur leurs bienfaits. Là. Si on veut les conserver dans notre corps, c'est qu'ils jouent un rôle très précis en termes d'antioxydants, et ça, c'est important.
Ce ne sont pas que les polyphénols et ce ne sont pas uniquement leurs propriétés antioxydantes. Ce sont les molécules phytochimiques, en fait, la signature organoleptique d'un aliment qui lui donne sa saveur et son goût, participe également à la défense biologique de l'espèce végétale qui produit ces molécules-là. Ces molécules-là, que sont les polyphénols, les terpènes, les composés soufrés, sont des insecticides, des bactéricides, des fongicides qui servent à protéger la plante de ses agresseurs que sont les herbivores, les insectes, les bactéries, les virus, les champignons. Et cette protection-là est la résultante d'une guerre chimique de survie d'une espèce, la plante, qui vit dans un environnement très hostile. Par les purs hasards de l'évolution, sur les dizaines de milliers de molécules de défense que les plantes produisent, on estime qu'il y en a quelques milliers qui ont également un impact sur la santé humaine au niveau de leurs propriétés anti-inflammatoires, anti-angiogéniques, elles bloquent le développement des vaisseaux sanguins, anti-cancéreuses et antioxydantes. Donc, consommer des fruits et des légumes, c'est exposer vos tissus et vos cellules qui vous constituent à un environnement anti-inflammatoire, antioxydant et anti-angiogénique qui, lui, est associé à la santé.
Pour revenir à la question de M. Cotiri de Toronto, Richard Béliveau, lui s'interroge sur le yogourt. Est-ce que dans le cas du yogourt, il y a les mêmes difficultés d'assimilation que dans le cas du lait?
On ne le sait pas, il n'y a pas eu d'études de fait là-dessus. Généralement, la fermentation est associée à une transformation du produit qui subit la fermentation. C'est la raison pour laquelle les produits fermentés, généralement, sont souvent plus santé encore que le produit d'origine parce que la diversité biologique des molécules biochimiques produites par les micro-organismes lors de la fermentation augmente la diversité moléculaire. On a donc plus de vitamines dans le yogourt que dans le lait, par exemple. On a plus de substances nutritives dans le miso qui est du soja fermenté que dans le soja d'origine et ainsi de suite. La fermentation est toujours associée à un bénéfice. Il y a plus de resveratrol dans le vin rouge qu'il n'y en a dans le jus de raisin. Donc, il y a toujours un effet bénéfique de la fermentation. Et on pourrait penser que que lors du processus de fermentation, probablement que ces effets-là risqueraient de disparaître. Il n'y a pas eu d'études qui ont montré que ça va dans un sens ou dans un autre, mais d'une façon logique et intuitive, on pourrait penser que ça se limite plutôt au lait et que ces effets-là risquent moins de se produire avec les produits fermentés qui ont subi une transformation biochimique assez importante.
Mais Richard Béliveau, je vous remercie infiniment pour toutes ces précisions. Merci beaucoup.
Bienvenue.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, Chantal Srivastava s'entretenait avec Richard Béliveau, qui est directeur du laboratoire de médecine moléculaire à l'Université du Québec à Montréal. Alors, si vous avez, vous aussi, des questions à nous poser, vous pouvez le faire par téléphone. De la région de Montréal, vous faites le 514-597-6166. D'ailleurs, au pays, vous faites le 1-800-752-9050, un appel sans frais, bien sûr. Et par courrier électronique, vous faites lumière@radio-canada.ca. La chronique des années-lumière maintenant avec notre sociologue et historien des sciences Yves Gingras de l'Université du Québec à Montréal. Une chronique en fait en philosophie de la technologie, hein, pour être bien précis. Alors on l'a raconté en début d'émission, l'astronaute canadien Robert Thirsk est revenu cette semaine sur Terre à bord d'une capsule russe de conception très ancienne. La capsule Soyouz était partie vers la station spatiale internationale à bord de la même, j'allais dire, vieille capsule il y a 6 mois. D'un autre côté, les Américains ont lancé fin octobre leur nouvelle fusée Ares, qui mettra en orbite à partir de 2015 leur nouvelle navette Orion. Donc, à côté de la vieille technologie russe, la toute nouvelle technologie américaine, Yves Gingras, est-ce qu'il faut crier bravo et vive la nouveauté?
Pour ceux qui aiment les gadgets, la réponse est oui. Mais oui. Quand j'ai vu ça, ça m'a amené à réfléchir finalement à l'existence de styles technologiques ou de traditions. Il y a des traditions, et ça, c'est très, très caractéristique des États-Unis, de l'innovation pour l'innovation. Changer, c'est toujours bien. C'est toujours mieux d'avoir la version la plus récente du programme Word, bien qu'au fond, vous tapez toujours vos lettres d'amour
de la même façon.
La même façon et vous n'utilisez oui. pas du tout ces nouveautés-là. Et le cas d'Ares est fascinant parce que si on retrace la conquête de l'espace, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord les Russes qui, dès 1960-61, lorsqu'ils lancent dans l'espace Yuri Gagarin, utilisent cette fameuse fusée Soyouz qu'on voit très bien, là, qui a un cylindre central autour duquel, comme une diagonale, il y a 4 moteurs.
Oui.
Donc, ça fait 5 avec le moteur central. Donc, c'est comme une fusée un peu en Y inversé. Alors que cette fusée-là, comme on va le voir, n'a pas bougé en un sens depuis 40 ans. Elle est restée stable. Donc, avec ça, les Russes ont fait le programme avec Gagarin. Ensuite, ils ont fait d'autres programmes en envoyant 2 gens, donc le Vostok, le Voskhod, le Soyouz, qu'on connaît peut-être mieux parce que dans les années 70, il va faire des rencontres avec les vols américains Apollo, qui, lui, a fait le pendant du Voskhod dans les années 60 avec le fameux programme Gemini. Et avant ça, bien sûr, le programme Mercury. Mais les Américains, au lieu de garder toujours la même fusée comme les Russes le font depuis plus de 40 ans,
Fusée qui marche, d'ailleurs.
Une fusée qui marche très bien. Oui. Les Américains ont d'abord utilisé la fusée Redstone pour faire un vol suborbital avec Alan Shepard. Mm-hmm. Et ensuite, pour le premier vol orbital qui est venu après celui de Gagarin, donc ils étaient deuxièmes, les Américains, le fameux vol de John Glenn, c'est une fusée Atlas, plus grosse, qu'il a envoyée. Lorsque les Américains ont fait le programme Gemini qui permettait d'amener 2 astronautes ou même 3 en même temps, ils ont changé de fusée. Ils sont passés à une fusée Delta. Et le dessin du Gemini est semblable au Mercury en plus gros, mais la fusée elle-même est complètement différente. C'est une fusée Delta. Ensuite, on connaît un programme mieux, le fameux programme Apollo, qui lui aussi n'utilise pas la fusée Delta, mais une fusée complètement nouvelle. D'abord, la Saturne 1B qui est plus petite. Et ensuite, bien sûr, pour le vol à la Lune, la fameuse Saturne 5. Mais immédiatement après, qu'est-ce qu'on fait? On veut retourner autour de la Terre avec la station orbital. Donc, on redessine de façon complètement nouvelle.
On innove encore
avec une navette qui ressemble d'ailleurs davantage à un avion parce qu'il atterrit comme un avion, mais on le lance avec un lanceur complètement nouveau. Mm-hmm. Et là, le lancement de Ares 1, c'est encore une fois, comme on dit, back to zero. on repart à la planche à dessin et on redessine une fusée nouvelle qui est très, très longue, qui est la plus haute qui a été conçue et qui ressemble davantage à un crayon.
Et on dessine aussi une nouvelle navette spatiale, ça va s'appeler Orion.
Qui va s'appeler Orion. Donc là, voyez-vous, on a donc deux approches qui s'opposent point par point et on peut se demander quels sont les avantages de cette innovation constante. C'est pas évident. Parce qu'au contraire, si on pense en termes de coûts-bénéfices, ben, on peut se dire que lorsqu'on a une technologie éprouvée qui fonctionne, les coûts à terme vont baisser, parce que bien qu'il y ait une amélioration à la marge. Donc, d'un côté américain, on a l'innovation radicale qui est privilégiée. Du côté russe, l'innovation à la marge. Le dessin de base est le même. On a sûrement amélioré les processus, les choses. Mais en gros, c'est la même chose.
Alors donc, d'un côté, l'approche américaine, on repart toujours à zéro, on réinvente la fusée à quatre trous, si je peux me permettre. Ouais. De l'autre côté, l'approche russe, où on garde toujours la même bonne vieille fusée, mais qui marche, parce qu'on sait qu'actuellement, les Américains sont un peu à court de lanceurs et doivent emprunter, faire de l'autostop ou de la fusée-stop avec les Russes. Hein.
Exactement. Oui. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le tout récent rapport, le fameux rapport Augustine, qui avait été commandé par Barack Obama, justement pour réfléchir sur l'avenir des vols spatiaux. Bien, le rapport Augustine mentionne que la nouvelle fusée qu'on vient tout juste d'expérimenter, qui fonctionne du moins pour le premier lancement, n'est pas vraiment utile. Parce que, comme ils disent, pour retourner autour de la Terre, donc pour retourner habiter l'inutile station orbitale, il nous faut, au fond, une technologie qui est celle de Gemini. Donc, effectivement, celle des années 60. Donc, Augustine, au fond, peut-être inconsciemment, confirme que la stratégie russe était la bonne, parce que c'est ce qu'ils font, eux, utiliser toujours la même vieille technologie. Et donc, on peut penser, ce qui est tout à fait plausible, que les coûts sont infiniment inférieurs. Parce que non seulement on teste actuellement Ares 1, mais on teste en parallèle une autre fusée assez différente, qui est Ares 5, qui, elle, doit être prête en 2018 pour préparer le retour, soi-disant, à la Lune des Américains. On peut se demander, s'ils voulaient retourner à la Lune, pourquoi ils n'ont pas essayé de reconstruire la fusée Saturn V?
Qui est allée très bien.
Et plusieurs fois.
Qui a permis d'y aller, oui.
Oui, et plusieurs fois, et sans avoir aucun problème technique. Par contre, ce qu'on peut penser, c'est qu'aujourd'hui, les ingénieurs qui avaient construit Saturn V sont à la retraite, sont dispersés, et les nouveaux ingénieurs, c'était plus facile de repartir effectivement à zéro. Donc, la manque de continuité dans l'expertise, la mémoire collective des ingénieurs qui ont permis de construire Saturn V a disparu, alors qu'on imagine que chez les Russes, ayant gardé le même lanceur pendant plus de 40 ans,
on a toujours de l'expertise récente.
Toujours de l'expertise. Et au total, il y a eu beaucoup moins d'explosions de Soyouz au départ que de problèmes avec les navettes.
Alors, Ingénieur, donc on l'a dit, approche américaine, du nouveau, toujours du nouveau, approche russe, on marche avec les vieilles affaires. Est-ce que ça nous donne quelques leçons sur la question même de l'innovation?
Oui, je pense que lorsqu'on promeut l'innovation à tout prix, on met la charrue devant les bœufs, on ne se pose pas la question, l'innovation, pourquoi? L'innovation doit être en fonction d'un objectif à atteindre. Si c'est sur le plan technologique, cet objectif doit tenir compte des coûts et des investissements et des avantages. Donc, le rapport coût-qualité et en fonction des objectifs. Les Russes se disent, on tourne autour de la Terre finalement depuis 40 ans, il n'y a pas de raison de changer de technologie. Les Américains ne semblent pas avoir compris et il y a donc une trop grande fascination pour l'innovation technologique. Et il faut plutôt, je dirais, revenir les deux pieds sur Terre. Et lorsqu'on définit un programme technologique, une innovation, il faut se dire, mais pour quelle raison je veux changer? Comme disent les Américains, « if ain't broken, don't fix it ». Si ça fonctionne bien et que c'est pas brisé, il n'y a pas de raison, a priori, de le changer.
Il faut être donc technologiquement conservateur, parfois.
C'est ce qui m'arrive.
Yves Gingras, je vous remercie beaucoup.
Ça fait plaisir.
C'est la fin de notre première heure ce soir. La télé Radio-Canada, 18h30, c'est Découverte avec au moins deux sujets, le stress et les enfants et un voyage dans l'image. Après les succès des jeux vidéo, Montréal veut devenir la capitale mondiale de l'image immersive grâce à la photobulle et au panoscope. Alors c'est donc ce soir à la télé, mais vous restez avec nous après les nouvelles, le bar des sciences sur le climat. Les années-lumière, deuxième heure. Rebonjour Yannick Villedieu, toujours pour vous présenter cette deuxième partie de notre magazine, votre magazine en fait, d'actualité et de culture scientifique. Une deuxième partie entièrement consacrée, comme c'est la coutume, entièrement consacrée donc à notre barre des sciences. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition du Bar des Sciences, Radio-Canada, Québec Sciences. Nous sommes, comme d'habitude, au bar, le Barouf, rue Saint-Denis, à Montréal. Merci encore au Barouf pour votre accueil. Un bar, j'irais de circonstance, parce qu'il est construit, vous le voyez, il est construit en bois. Le bois qui est un capteur de CO2 quand les arbres poussent et qui est un piège pour emmagasiner le carbone. Nous sommes vraiment dans un bel endroit pour ça. Un endroit de circonstance, effectivement, parce que nous sommes à quelques jours de la conférence de Copenhague sur le climat et que nous allons ce soir discuter climat en nous posant la question suivante. Inquiétude climatique, trop ou trop peu? Alors, comme le veut la formule des Bars des Sciences, nous allons en discuter ce soir avec vous, le public du Barouf, et aussi avec nos trois personnes ressources. Je vais vous demander de les accueillir chaleureusement. D'abord, il y a Rénald Duberger, qui est ingénieur, professeur de géophysique à la retraite de l'Université du Québec à Chicoutimi, et climato-sceptique convaincu. Monsieur Duberger. Au fond du bar, Stephen Guilbeault, militant écologiste, cofondateur d'Équiterre. Stephen Guilbeault qui vient de publier aux éditions du Boréal un livre très bien documenté qui s'appelle « Alerte, le Québec à l'heure des changements climatiques ». Stephen Guilbeault. Et là-bas, à main gauche, Hervé Le Treut, spécialiste de la modélisation du climat à l'École polytechnique de Paris, auteur de plusieurs livres sur le sujet, dont le dernier s'appelle « Nouveau climat sur la Terre ». Comprendre, prédire, réagir, c'est publié chez Flammarion. On accueille Monsieur Le Treut. Monsieur Le Treut, dont la présence ici est permise grâce à la collaboration du Consulat général de France à Québec. Alors pour commencer, je vais faire un premier tour avec nos personnes ressources. Je vais y aller par ordre alphabétique. Donc Rénald Duberger, votre réponse à la question inquiétude climatique, trop ou trop peu?
Évidemment trop, puisque je suis un sceptique, mais avant de donner une opinion vraiment ferme, j'aimerais dire qui je suis et surtout qui je ne suis pas. Je ne suis pas un scientifique du climat. Je suis un scientifique point, à la retraite depuis 9 ans. Je suis ingénieur, comme vous l'avez souligné, géologue, géophysicien de la Terre solide. Et ma spécialité à l'intérieur de la Terre solide, c'est les tremblements de terre. On est peut-être loin du climat quand on dit ça, mais quand on pense que peut-être les tremblements de terre et les éruptions volcaniques sous-marines sont peut-être un facteur déterminant dans le El Niño, les géophysiciens ne sont peut-être pas si loin que ça du climat.
Cela dit, la réponse à la question trop ou trop peu, vous dites on en fait trop parce qu'il n'y a pas de changement climatique?
Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de changement climatique. En tant que géologue, je sais très bien qu'il y en a toujours eu des changements climatiques depuis que la Terre existe. Il y en a même eu de beaucoup plus importants en durée et en intensité que celui qu'on connaît présentement. Il y en aura d'autres dans l'avenir, sauf que je crois que on s'est détourné des questions environnementales beaucoup plus importantes que celles-là. On a négligé, à mon avis, à tort, le problème de l'eau et des ordures urbaines également. J'ai travaillé en Afrique dans le domaine des eaux souterraines. Je sais de quoi il s'agit. Quand j'arrivais au puits le matin, que je voyais ces femmes qui avaient déjà marché depuis 4 heures le matin avec un gros canari sur la tête pour apporter de l'eau non potable dans leur village pour leurs besoins domestiques, allez leur dire à ces femmes-là que les changements climatiques, c'est un problème.
Vous allez voir ce qu'elles vont vous dire. Mais on va vous dire que peut-être, avec les changements climatiques, il y aura plus de sécheresse et qu'elles marcheront non pas 4 km, mais 6 km pour aller chercher l'eau.
Puisque vous parlez de sécheresse, j'ai vu un reportage à la télé dans un bulletin de nouvelles il n'y a pas longtemps sur le Chacaltaya en Bolivie. où on montrait un glaciologue, entre guillemets, qui disait que si les glaces avaient fondu autour du Chacal Taillard et que le paysan n'avait plus d'eau pour leurs besoins agricoles, c'était à cause du réchauffement global. J'ai pas pu m'empêcher de faire un rapprochement entre le Chacal Taillard et le Kilimandjaro et le Mont Kenya, que j'ai déjà survolé en Afrique, et les évidences scientifiques sont de plus en plus abondantes pour démontrer que sur le Kilimandjaro et le Mont Kenya, la diminution du couvert de glace n'est pas due à un changement climatique global, mais à un effet climatique local qui est dû à la déforestation suivie de pratiques agricoles abusives. Alors, quand une calotte glaciaire n'est plus alimentée par de la neige, qu'est-ce qui se produit? Il se produit de l'évaporation. Au Kilimandjaro, on a simplement un phénomène de sublimation qui est tout à fait naturel, dans lequel l'homme a sa responsabilité, mais ce n'est pas un effet global.
Donc, vous ne dites pas qu'il n'y a pas changement climatique, mais vous dites, enfin, c'est la grande séparation entre les climato-sceptiques et les réchauffistes, comme vous les appelez des fois. C'est sur la cause du changement climatique. Vous dites, c'est pas dû aux gaz à effet de serre et à l'effet et à l'humanité, en gros.
Les gaz à effet de serre peuvent avoir un effet que moi, je trouve minime. Mais il y a des moteurs comme le soleil, la vapeur d'eau, les nuages, dont on comprend encore mal la formation, qui, à mon avis, sont des facteurs beaucoup plus importants que les gaz à effet de serre émis par l'homme. Donc, les réchauffistes, je les appelle des anthropo-réchauffistes parce qu'ils considèrent que c'est l'homme qui est l'agent principal de ces changements.
Alors ça, c'est le lancement de la discussion par Reynald Duberger. On continue notre tour de table avec Stephen Guilbeault, donc cofondateur d'Équiterre. Stephen Guilbeault, est-ce qu'on en fait trop ou pas assez?
Moi, je dirais que nos inquiétudes, elles sont de plus en plus adéquates. Il y a une prise de conscience, ici comme ailleurs, des problématiques environnementales en général. Lors de la dernière édition du Jour de la Terre, il y a plus de 500 millions de personnes, donc 500 millions de personnes qui ont participé à des activités liées aux questions environnementales, que ce soit changement climatique, qualité de l'eau, qualité de l'air, agriculture durable, ainsi de suite, partout sur la planète. Le 24 octobre dernier, il y a une journée internationale d'action sur les changements climatiques qui a été organisée, où 4500 activités ont été organisées dans 174 pays de la planète. C'est phénoménal comme prise de conscience par rapport à, il n'y a pas si longtemps que ça, le sommet de la Terre de Rio de 92, la première conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Berlin en 95. La couverture médiatique et l'intérêt général suscité par cette question-là était minime à l'époque.
Mais on pourrait vous dire, Stephen Guilbeault, que bien sûr, il y a une grande mobilisation planétaire, beaucoup de gens sortent dans la rue, peut-être parce que les médias en font trop et créent une psychose du changement climatique, non?
Moi, je ne suis pas un adepte de la théorie du complot. Dans tous les sens du mot, là, on peut être à gauche et penser qu'il y a des complots à droite, on peut être à droite et penser qu'il y a des complots à gauche. Moi, je suis pas tellement là-dedans. Quand on regarde l'abondance de littérature scientifique, de groupes de scientifiques qui prennent position, encore ce matin, la Fédération mondiale des ingénieurs qui prend position par rapport à Copenhague, qui dit « Nous pouvons relever le défi de limiter l'augmentation de température à 2 degrés ». La semaine dernière, au Québec, l'Association des médecins de famille, le Service géologique canadien, la NASA. Alors, je pense que les médias sont le reflet, ont été les porte-voix de cette prise de conscience-là et de cette préoccupation-là qui est d'abord venue de la communauté scientifique.
Et ce que vous dites, c'est que l'explication par les gaz à effet de serre, donc émis essentiellement par les activités humaines, c'est la bonne explication au changement climatique qu'on observe actuellement.
Écoutez, moi, je ne suis pas scientifique, alors je ne prétends pas être en mesure de prendre
position. Mais dans ce que vous lisez,
dans ce qu'on lit, bon, et c'est important de comprendre le processus international du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.
Le GIEC, oui.
Le GIEC, on parle de 2500 scientifiques. Que font ces gens-là? Ils font littéralement une revue de la littérature scientifique qui leur demande 4 à 5 ans. Ils vont regarder tout ce qui s'est publié dans les revues scientifiques sérieuses, donc avec comité de lecture et ainsi de suite, pour arriver à tirer les grandes conclusions de l'essence de la connaissance scientifique sur ces questions-là. Et ces gens-là nous disent la majorité du problème que nous connaissons présentement, il est lié à l'activité humaine. Est-ce que le soleil joue un rôle? Est-ce que certaines activités naturelles jouent un rôle? Oui, mais d'après les scientifiques, d'après la communauté scientifique internationale, le rôle naturel, les variations naturelles sont minoritaires dans le problème que nous connaissons présentement. La majorité du problème, il est causé par l'activité humaine.
Merci. Alors, je vais passer à mon troisième, notre troisième personne ressource, Hervé Le Treut, donc scientifique, donc spécialiste de la modélisation du climat à l'École polytechnique à Paris. Trop ou trop peu nos inquiétudes climatiques, Hervé Le Treut?
Je pense que par rapport au diagnostic scientifique, c'est clairement trop peu, beaucoup trop peu. Je voudrais d'abord peut-être préciser un peu justement moi aussi qui.
Oui, oui, allez-y.
Ce que j'ai fait. En gros, j'étudie ce problème du changement climatique depuis 1978 à peu près, et vraiment le problème lié au gaz à effet de serre depuis la fin des années 80.
Donc ça fait plusieurs semaines.
Voilà, ça fait quelques semaines, et j'ai vu grandir l'intérêt sur ce problème-là. C'est un problème qui était relativement confidentiel, mais il a grandi aussi parce que le problème s'est posé différemment au fil des années. Si on veut faire un chronogramme un peu de ce qui s'est passé, les émissions de gaz à effet de serre, et les gaz à effet de serre, c'est très important. La planète, sans les gaz à effet de serre, c'est une toute petite quantité de gaz dans l'atmosphère, mais qui permet à la planète d'être à 30 degrés plus chaude qu'elle serait sans les gaz à effet de serre, et d'être en fait habitable.
À l'état naturel. Il y a une serre dans laquelle on vit.
On vit dans cette serre qui est due à moins d'1% de la masse de l'atmosphère. Donc c'est un phénomène extraordinairement sensible qu'on a commencé à perturber. On dit souvent depuis le début de l'ère industrielle, en fait c'est beaucoup plus proche que cela, c'est vraiment après la Deuxième Guerre mondiale. Et ces gaz à effet de serre, ils ont une caractéristique, au moins le plus important d'entre eux, qui est le CO2, le plus important que l'homme peut perturber, en tout cas, il y a la vapeur d'eau aussi, qui est d'être émis pour 100 ans à peu près. C'est-à-dire qu'au bout de 100 ans, la moitié des gaz qu'on a émis dans l'atmosphère est toujours là. Donc à partir de 50, 70, les gaz ont commencé à se stocker dans l'atmosphère. Et le stockage a commencé à produire des effets dans les années 70. C'est un peu comme si on met le chauffage sous une casserole d'eau. Il faut un petit peu de temps encore pour que la casserole se mette à se réchauffer.
Oui, oui.
Les premiers effets du changement climatique liés au gaz à effet de serre, qui se superposent bien sûr à la variabilité naturelle, ont commencé à les voir dans les années 90, de manière très claire. Et là, c'est de l'analyse scientifique factuelle. Il y a superposition de variabilité naturelle et d'une variabilité additionnelle qu'on voit d'abord au niveau de la température dans les régions polaires et qui est aussi pour les problèmes hydriques un peu partout sur la planète. Il y a le relèvement du niveau de la mer. Tout ça se mesure, tout ça peut s'évaluer de manière factuelle.
Et on a des faits, des données solides pour ça.
L'observation de la planète, c'est des dizaines de milliers de personnes. On ne peut pas penser que c'est pas de l'amateurisme. Et donc, on voit clairement l'empreinte de ces effets-là. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les gaz à effet de serre, ça se stocke dans l'atmosphère. On continue d'en émettre, on continue d'en émettre même très vite. Pour donner un chiffre, je n'en ai qu'un seul. Dans les années 50, on était à 1 ou 2 milliards de tonnes de carbone émis dans l'atmosphère chaque année. En 2008, on était à près de 10 milliards de tonnes de carbone. Donc l'augmentation de ce qu'on émet dans l'atmosphère est colossale et ça continue de se stocker. Et les effets essentiels, quand on parle du réchauffement climatique, l'effet essentiel, c'est un effet futur. Ce que l'on craint, c'est ce qui va se passer dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Et comme le système climatique, c'est un gros bateau
qui bouge pas beaucoup,
qui bouge pas rapidement, c'est maintenant que ça se joue.
D'accord.
Voilà. Donc moi, je crois qu'il y a une évolution qui est très claire sur quelques
décennies. Vous avez dit, Monsieur Trott, que on n'en fait pas assez par rapport à ce que dit la science. Donc vous trouvez que le public, les médias, puisqu'on représente un peu le public, n'est pas assez inquiet par rapport à ce que les scientifiques sont.
Je pense qu'il y a la prise de conscience, alors je ne sais pas ici au Québec, mais en France, elle a beaucoup augmenté, mais elle est très superficielle.
Monsieur Duberger, si vous voulez répondre à ce que les deux viennent de dire.
C'est un peu difficile pour moi, parce que je ne peux pas discuter au même niveau de modélisation climatique avec Monsieur Le Treux. Je peux simplement dire que si vous parlez de la conscientisation du public vis-à-vis le problème, entre guillemets, de réchauffement climatique, je peux vous dire que quand je visite les jeunes dans les écoles secondaires et je leur pose la question spontanément, quel est le problème principal environnemental que vous voyez qui concerne la planète et l'humanité tout entière, spontanément, on me répond le réchauffement climatique. Alors c'est là que moi j'interviens en leur disant non, c'est l'eau d'abord et les ordures urbaines ensuite.
Mais est-ce que ça nie la réalité ou l'inquiétude qu'on pourrait avoir pour le changement climatique?
Ouais,
on a le droit d'être inquiet pour trois raisons.
Il y a un aspect qui m'inquiète beaucoup, c'est l'aspect information, pour ne pas dire désinformation. Je m'explique. Quand on voit à la télé, soir après soir, semaine après semaine, des images de banquises qui se disloquent, qu'elles soient de l'Antarctique ou d'ailleurs, avec des bruits énormes, et que cette image est sous-tendue avec un message alarmiste, il n'est pas étonnant que les gens aient peur. J'ai passé une partie de mon été, je suis allé dans l'école secondaire que j'ai fréquentée quand j'étais jeune, j'ai emprunté à la bibliothèque les 6 manuels qui servent à l'enseignement des sciences à nos jeunes du secondaire, des deux cycles, premier et deuxième cycle. J'ai été étonné de certaines phrases que j'ai lues là-dedans. Je ne parlerai pas de climat, juste la définition de la technologie. Je suis ingénieur. J'ai été choqué d'apprendre que la technologie, ça ne servait qu'à fabriquer des objets. C'est la définition qu'on donne dans le manuel de sciences au secondaire. Mais quand on arrive dans le chapitre sur les changements climatiques, on voit un petit ourson blanc sur son glaçon et c'est marqué la surchauffe au pôle. Et je vous fais grâce des commentaires, mais le petit Kevin qui rentre chez lui le soir puis qui voit son père avec un 4x4 et puis qu'ils ont un foyer au bois qui surchauffe pendant tout l'hiver, il a une très bonne opinion de l'ours polaire puis une très mauvaise opinion de son papa. J'aime pas ce genre de message. Quand on enseigne, on prétend enseigner de la science à nos jeunes de secondaire, c'est pas des messages politiques ou idéologiques qu'il faut leur transmettre. On peut leur transmettre des valeurs, bien sûr, sur la protection de l'environnement, d'accord, mais c'est d'abord des notions scientifiques. Avant qu'un jeune puisse se faire une idée sur les gaz à effet de serre, sur le réchauffement climatique, ça lui prend de solides notions en géologie, en physique, en chimie, en biologie et tout. Alors, ça. Et je constate que malheureusement, c'est peut-être pas ça qu'on enseigne dans nos écoles secondaires québécoises.
On ne fera pas le débat sur l'enseignement des sciences parce qu'il faut le faire, effectivement, c'est intéressant. Peut-être Stephen Guilbeault voulait ajouter un petit mot à ça et là, on va aller à monsieur qui a déjà tendu la main avec impatience. Stephen Guilbeault.
Je pense qu'il y a plusieurs façons de voir le problème, effectivement. Et moi, et c'est beaucoup ce que j'ai cherché à faire dans le livre, c'est de montrer finalement que à travers ce grand défi-là que pose la question des changements climatiques, il y a énormément d'opportunités pour transformer nos sociétés vers quelque chose de mieux. Et plusieurs pays sont en train de le faire. Admettons pendant une seconde qu'il n'y ait pas de problème avec le réchauffement de la planète. Est-ce que ce serait quand même une bonne chose de faire comme la Suède et de dire « nous allons éliminer notre dépendance au pétrole » parce que bon, le pétrole, oui, ça pollue, hein, ça pollue l'eau, ça pollue l'air. Dans le cas du Québec, c'est entre 13 et 15 milliards de dollars qu'on exporte à l'extérieur de nos frontières pour acheter un produit qu'on aura de toute évidence, en tout cas, selon toute probabilité, qu'on n'a pas ici. Alors, est-ce qu'on serait mieux, en tant que société, de dire « investissons dans des technologies plus propres, créons des emplois dans ces secteurs-là, transformons ce défi-là en une opportunité pour notre société, pour qu'elle soit à la fois plus propre et que ce soit vraiment une société tournée vers l'avenir ?»
Merci Stephen Guilbeault. On va donner la parole à pour une deuxième fois, deuxième tour de table, donc à notre spécialiste invité, M. Le Treut.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, savoir que le problème du changement climatique, je pense que c'est un problème extrêmement sérieux, j'ai consacré beaucoup d'années, mais je ne suis pas catastrophiste au sens où j'aime pas plus que le premier interlocuteur, la première personne ressource, les images de banquises qui craquent et les... Je crois que c'est important de rester assez factuel et assez, oui, précis sur ces problèmes-là, précisément parce que on a différents problèmes écologiques qui se posent à nous, le problème du climat, le problème de la biodiversité qui pourrait être probablement, si on le prend à l'échelle globale, à l'échelle mondiale, un des enjeux majeurs pour la planète
et peut-être
à
plus urgent, oui, oui.
Et, oui, mais qui sont liés, oui, et les problèmes de l'eau, mais qui est lié aussi. Donc je crois qu'il faut arriver à faire le lien entre ces problèmes écologiques et ça demande d'être un peu d'être justement ni hyper catastrophiste ni factuel. Mais la question, c'était pas le catastrophisme. La question, c'est est-ce qu'on en fait assez. Et là, je pense que c'est la réponse est très claire pour moi. On en fait pas assez.
On en fait pas assez. Mmh. Alors on va aller dans le public. Si Monsieur vous présentez, vous dites qui vous êtes et vous faites. Vous posez votre question, vous faites votre remarque.
Oui, bonjour. Donc Julien Soreau, je suis ingénieur en énergie et environnement. J'ai une petite question à messieurs Le Treut et monsieur Guilbeault, à savoir que trop ou trop peu, c'est la question. Ne croyez-vous pas que, quelles que soient les réductions que s'imposent les grands de ce monde, à savoir moins 25 ou moins 40%, le mouvement est de toute façon inéluctable, dans la mesure, enfin quelque part, qu'il est trop tard. Vous avez parlé d'une certaine inertie, et là je vous rejoindrai dans ce que vous dites, à savoir que on n'en fait pas assez et on n'en a pas fait assez.
Alors, est-ce qu'il est trop tard pour agir, Monsieur Le Treut et Stephen Guilbeault, Monsieur Le Treut?
Le problème du système climatique, c'est qu'on a un système avec un certain nombre de seuils dedans. Le seuil où les glaces vont fondre un peu plus vite, le seuil où les arbres, où certaines espèces vont réagir à un climat qui leur plaît pas. Et par rapport à ça, on est à peu près certain qu'on va franchir les premiers seuils. On a fixé ce chiffre de 2 degrés parce que c'est effectivement un moment où...
2 degrés
de réchauffement à ne pas dépasser. Au niveau de l'Union européenne, qui a été pris comme un objectif, qu'on a très très peu de chances de ne pas vraiment dépasser, en fait.
Et actuellement, on est à quel degré
On est à peu près à 1 degré actuellement.
1 degré, donc
On a encore une marge d'un degré en
gros. On a une marge d'un degré. Si on ne fait rien, ça sera en 2050. Mais vu l'inertie du système, qui a 20-30 ans d'inertie, c'est-à-dire qu'il faut vraiment agir tout de suite pour ne pas dépasser ça. Donc, on a effectivement des seuils dans le système climatique. Mais on en a beaucoup. Donc, on ne va peut-être pas se protéger des premiers effets. Mais il y a beaucoup d'effets qu'on touchera en fin de siècle, c'est-à-dire éventuellement la fonte complète du Groenland, la fonte qui peut s'enclencher à partir d'un certain point, dont on peut se protéger. Donc je pense qu'il n'y a pas un système noir ou blanc où à partir d'un certain seuil, tout est foutu, et avant celui-là, tout
d'accord.
va bien.
Stephen Guilbeault, votre réponse, on ne peut plus rien faire, c'est trop tard, tout est foutu.
Est-ce qu'on en a suffisamment fait jusqu'à maintenant? La réponse est évidemment non. Est-ce que à Copenhague, on accouchera d'une entente internationale qui nous permettra d'aller aussi loin que nous aurions besoin d'aller? La réponse, je pense que c'est aussi non. Alors, d'après les Nations unies, pour les pays industrialisés, les objectifs seront de l'ordre de 16 % à 23 % sous les niveaux de 90 d'ici 2020, ce qui est quand même de 3 à 4 fois plus ambitieux que ce sur quoi les pays s'étaient entendus à Kyoto en 1997. Je pense que la chose la plus importante, c'est de se dire, à la limite, on ne peut pas abandonner. C'est un luxe que nous n'avons pas de dire, bon, ben, il est trop tard, on laisse tomber, on change de poste de télé, on va écouter Occupation Double. D'ailleurs, les débats autour de la question de savoir est-ce que le Canada en fait suffisamment arrive en deuxième position dans les discussions dans les chaumières québécoises après Occupation Double. Alors peut-être qu'il y a de l'espoir, mais je pense qu'il...
Mais il n'est pas trop tard pour faire quelque chose.
Si on regarde le dernier rapport du GIEC, celui de 2007, il n'est pas trop tard, mais effectivement, comme M. Letreux le précisait, il y a une inertie très importante dans le système climatique global. Et ce n'est pas juste le réchauffement qu'on a connu déjà, c'est le réchauffement qu'on va connaître à cause des gaz à effet de serre qui sont dans l'atmosphère et qui vont l'être encore.
On dit toujours qu'il faut protéger la Terre pour nos enfants, mais c'est aussi pour les enfants de nos enfants, en l'occurrence.
On travaille beaucoup pour les enfants de nos enfants, effectivement.
Oui. Merci. Alors, en arrière, ici, monsieur, vous présentez.
Nicolas Meslim, je suis journaliste spécialisé en agroalimentaire et en environnement. Il est certain que les changements climatiques vont affecter la production agricole mondiale. Pourquoi? Simplement par l'eau. Et ce que l'IFAO nous dit, c'est qu'on va augmenter de population d'ici 2050 de 3 milliards d'habitants sur la planète. Alors l'eau et la propriété de la Terre vont devenir deux facteurs majeurs pour nourrir les gens. Maintenant, on se demande, est-ce que le Canada en fait assez? Le Canada possède 7 % des réserves d'eau douce et on produit notre nourriture, on en exporte. Juste pour vous donner une idée, le bol de fruits et de légumes de l'Amérique du Nord, qui est la Californie, on importe, nous, Québécois, les deux tiers de nos légumes et des fruits et légumes de la Californie. Quand la Californie va manquer d'eau, et ce qui se passe en ce moment, le prix des légumes va augmenter. Maintenant, quand on dit « est-ce que le Canada en fait assez ou le Québec en fait assez? » Le Québec se gargarise d'avoir un bon bilan environnemental, mais quand on regarde sa tarte énergétique, la moitié de ce qui sert à chauffer nos chaumières, nos hôpitaux et tout, ça provient du gaz, du pétrole et du mazout. Donc, c'est à se demander pourquoi on n'aurait pas une politique, si vous voulez, énergétique, qui favoriserait la biomasse et encouragerait les agriculteurs du Québec à produire cette biomasse-là, comme la Suède l'a fait.
Monsieur Rénal Duberger veut suivre sur cette remarque-là.
Bon, est-ce qu'il est trop tard pour faire quelque chose? Je dirais qu'il est trop tôt.
Et trop tôt.
Il faudrait même avoir le courage de ne rien faire. Et je salue ici le courage de Monsieur Harper, dont la position claire à Copenhague, j'espère qu'il va la maintenir, c'est oui, le Canada fera quelque chose à la condition que tous les pays fassent quelque chose, y compris l'Inde, y compris la Chine. Et j'aurais souhaité que M. Harper pousse encore son courage un peu plus loin et fasse comme le président de la République tchèque, M. Václav Klaus, qui était jusqu'en juin dernier président de l'Union européenne, qui lui dit, devant le mythe, c'est pas mes paroles, c'est les siennes, du réchauffement climatique, il faut avoir le courage de ne rien faire.
Mais le courage de ne rien faire, c'est peut-être...
Ça veut dire que je ne crois pas que le CO2 émis par l'homme soit un gros responsable d'un réchauffement global. Et voulez-vous que je vous cite un article scientifique récent qui est dans Geophysical Research Letters? « Is the airborne fraction of anthropogenic CO2 emissions increasing? » Je traduis, la proportion dans l'atmosphère du CO2 d'origine anthropique est-elle en augmentation? La réponse est non. Et cet auteur, qui est Wolfgang Knorr, du département des sciences de la Terre de l'Université de Bristol en Angleterre, c'est un autre géologue empêcheur de réchauffer en rond.
Ils sont toujours comme ça, les géologues. Dites-moi, c'est une question
pourquoi
que je vais vous poser.
Pourquoi les géologues sont comme ça?
Pourquoi toujours les géologues?
On m'a déjà posé la question. Pourquoi on est comme ça, sceptique?
Vous êtes des... climato-frustré?
Non, il y a deux raisons. D'abord, peut-être parce que le géoscientifique a une formation scientifique plus vaste que la majorité des scientifiques physiciens, chimistes ou biologistes. Pour être un géologue ou géophysicien, ça prend d'abord de solides connaissances en mathématiques, en statistiques, en chimie, en biologie et en physique. Deuxième raison, c'est que le géologue, le géoscientifique, a l'habitude de voir la Terre dans une perspective chronologique beaucoup plus vaste que les autres scientifiques.
On appelle ça l'échelle de temps géologique.
J'avais l'habitude de dire, quand on était plus, j'étais étudiant, si ça pue, c'est de la biologie, si ça sent plus rien, c'est de la géologie.
Monsieur Letreut voulait répondre à cette idée. Je pense que non, le CO2 ne fait rien, ou il n'y en a pas plus qu'avant.
Oui. Je voulais répondre surtout sur la problématique des pays émergents et des pays comme l'Inde, la Chine, puisqu'on a mis en cause la... Je crois qu'il faut avoir conscience quand même du fait que les émissions des pays actuellement sont quand même, si on les rapporte par habitant, extrêmement différentes, d'une part, et que d'autre part, si on fait le bilan de ce qui est émis depuis les années 50, la part des pays et ces gaz à effet de serre restent dans l'atmosphère. La part des émissions déjà dues aux pays occidentaux, européens ou américains du Nord, est colossale. Et que la Chine, l'Inde ou le Brésil, d'abord, n'ont pas refusé de prendre leur part du problème, mais en même temps, le font surtout parce qu'ils se sentent menacés par le changement climatique, plus parce qu'ils se sentent un devoir vis-à-vis de la communauté internationale. Ils arrivent juste à un niveau où ils commencent eux-mêmes à émettre beaucoup de gaz à effet de serre, mais par habitant, c'est beaucoup, beaucoup moins que nous. C'est à peu près 5 fois moins qu'un Américain du Nord, à peu près 2 fois moins qu'un Européen, par habitant, en termes d'émissions par habitant. Donc la part émise par ces pays-là, rapportée à leur population, reste faible. Je crois que s'ils ont quand même accepté d'aller à la table de négociation à Copenhague et que la Chine a annoncé des mesures, c'est parce qu'ils se sentent, et ils ont beaucoup d'experts climatiques, ils se sentent menacés. Ils vivent dans la zone intertropicale. Donc les gaz à effet de serre se mélangent à l'échelle de la planète, mais il y a des zones plus critiques. Toute la zone intertropicale, c'est des zones où il y aura des sécheresses, c'est des zones où il y aura des typhons, et ces pays-là sentent la pression. La Chine manque de terres agricoles et sent la pression du climat.
Une intervention, monsieur.
Oui, mon nom est Danny Ouellette. Je suis biologiste de formation spécialisé en écologie. Pour répondre à monsieur le climato-sceptique de tantôt, j'ai suivi à la lettre ce qu'il recommandait, en fin de compte, pour comprendre un peu les changements climatiques. Il fallait aller puiser dans différentes sciences. C'est ce que j'ai fait et j'ai publié ce bouquin récemment.
Ce livre qui s'appelle?
Réchauffement, volcanisme et glaciation. D'accord. Puissance du carbone géologique, une menace pour la sécurité écologique mondiale.
Allez-y.
À mon avis, la principale cause du réchauffement, c'est nos émissions de gaz carbonique, les émissions causées par les activités humaines. Ce que l'on crée présentement, finalement, c'est un déséquilibre. On altère le cycle géologique du carbone. C'est ce qui se passe. Les émissions humaines en gaz carbonique actuellement représentent 100 fois celles des volcans. Et les volcans, à travers les âges géologiques, sont étroitement impliqués dans les variations de climat.
Alors là, Stephen Guilbeault.
Je serais curieux de savoir combien il y a de personnes qui partagent l'opinion de M. Duberger. Donc, si j'ai bien compris, l'ensemble des Nations unies, il y a plus de 160 pays qui ont ratifié la Convention cadre des changements climatiques de 1992 et le protocole de Kyoto en 1997. L'ensemble des groupes de chercheurs de la planète, que ce soit aux États-Unis, au Japon, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France, au Canada, aux États-Unis, la NASA par exemple, et la majorité des médias sont pris d'une espèce de paranoïa contagieuse face à la question des changements climatiques, et sauf une poignée de géologues, nous sommes tous dans le champ. J'ai un peu de difficulté à accepter ce genre d'argument-là, de dire ben finalement tous les scientifiques se trompent, sauf et c'est pas tous les géologues, parce que le Service géologique canadien demandait encore la semaine dernière au gouvernement un peu de prendre des positions plus ambitieuses face à la conférence de Copenhague, ce qu'ont fait la majorité des gouvernements de la planète, incluant les pays industrialisés. Donc cette idée-là que nous sommes toutes et tous victimes d'une espèce d'hystérie pandémique collective m'apparaît un peu tiré par les cheveux.
On retourne dans la salle. Monsieur, vous présentez.
Michel Lamotte. Je vais dire que je suis géologue.
Un géologue.
Voilà. Donc, je me présente et j'espère que vous ne me lancerez pas de tomates. Là, mais moi, je veux quand même dire premièrement que les géologues, c'est des scientifiques multidisciplinaires qui, effectivement, s'intéressent à l'environnement. C'était les premiers à s'intéresser à l'environnement, vraiment, avec les biologistes, les écologistes, en fait, beaucoup. Et c'est vrai qu'on regarde l'histoire de la Terre avec le passé en tête, parce que nous, on fait l'histoire de la Terre, et on essaie de voir, bien, aujourd'hui, les changements qu'on voit, est-ce qu'ils se comparent à ceux du passé et comment la Terre elle-même a réagi aux changements environnementaux et en particulier à l'augmentation des gaz à effet de serre. Et on sait, par exemple, qu'on s'en va vers une atmosphère que la Terre n'a pas connue depuis 50 millions d'années environ. Et si on va à 3-4 fois le gaz carbonique pré-industriel, on va se rendre à 100 millions d'années. Moi, je suis plutôt pas nécessairement d'accord avec les climato-sceptiques, sauf sur l'argument qu'il faut quand même qu'on débatte des idées, ce qui est peut-être parfois un problème, mais bon. Ce sont les géologues qui ont montré qu'on a une période interglaciaire qu'on appelle présentement depuis 10 000 ans, où pour la première fois dans l'histoire de la planète, il y a une espèce animale qui contrôle le climat, qui affecte le climat. C'est la première fois. On n'a jamais vu ça dans le passé.
Revenons deux secondes aux échelles de temps des géologiques, parce que vous êtes géologue.
Ouais.
Ce qu'on dit toujours, oui, bien sûr, le climat a changé. Oui, bien sûr, le CO2 a grimpé, a descendu, ça a glacé, ça n'a pas glacé. Mais pas en 25 ans ou 50 ans. C'est ça la grande différence, non?
Voilà. Là, vous venez de toucher le point essentiel. On est rendu à 380 et quelques, je ne sais pas, mais...
380 parties par minute.
Jamais on a passé... On a monté d'une centaine de ppm à l'intérieur de 100 ans, 150 ans. C'est une augmentation jamais connue dans l'histoire de la Terre.
Aucun géologue n'a jamais vu ça?
Non.
D'accord.
Et ce qu'on fait, nous, en géologie, avant que vous passiez, parce que je ne reparlerai pas, là, les géologues, je ne veux pas qu'on ait la mauvaise idée, là, on s'intéresse aux environnements du passé, parce qu'on veut comprendre les environnements analogues et savoir ce qui va se passer sur la planète dans les 100 prochaines années. Et ça, c'est un challenge pour les jeunes qui sont ici. Alors, on a une expérience devant nous extraordinaire, là, la Terre vit une expérience. Donc moi, dans le débat, là, ce que je dis, on n'en fait pas nécessairement trop, il faut en faire beaucoup. Puis je pense que c'est une belle aventure pour les jeunes qui s'en viennent, pour les scientifiques, géologues, biologistes, géophysiciens, mathématiciens, matheux, là, etc.
Tout le monde. Merci beaucoup. Une petite réaction rapide en arrière.
Bonjour, Robert Simon, je suis technologue. J'ai une question pour M. Guilbeault. Ne craignez-vous pas, M. Guilbeault, de remettre dans les mains des politiciens, par la taxe du carbone, ce taxage global dont les enfants de nos enfants hériteront?
Il y a quelques années, en fait, pas très longtemps après que le Québec ait annoncé sa taxe. En fait, c'est pas exactement une taxe, là. Techniquement parlant, on parle d'une redevance qui est pas tout à fait la même chose qu'une taxe, mais pour les besoins de la cause, parlons d'une taxe. J'étais dans une conférence avec un représentant de l'Institut économique de Montréal. Alors, vous pouvez imaginer le nombre de fois dans ma vie où j'ai été en accord avec des représentants ou des représentants de l'Institut économique de Montréal. Ça se compte sur les doigts d'une main sur lequel il manque des doigts. Et pourtant, à cette conférence-là, le représentant de l'Institut économique de Montréal disait « Nous sommes d'accord avec la taxe sur le carbone que le gouvernement du Québec a mise de l'avant. Pourquoi? Parce que c'est une taxe dédiée. C'est pas une taxe qui va au fonds consolidé. C'est une taxe qui va, techniquement parlant, au Québec, dans le fonds vert, et qui sert essentiellement à financer le transport en commun et l'amélioration des systèmes de transport en commun et l'efficacité énergétique, notamment pour les entreprises, petites, moyennes et grandes. » Alors, dans ce contexte-là, moi, je suis excessivement favorable à ce genre de choses-là, puisque ça nous permet de réinvestir et de rendre notre société, de façon générale, que ce soit d'un point de vue production, d'un point de vue déplacement des biens et des personnes, plus efficace. Et ça, je pense que au-delà de nos différences, on peut s'entendre sur le fait que c'est une excellente chose.
Merci. On va dans la salle. Madame a levé la main depuis quelques minutes déjà. Madame, vous présentez et vous faites votre remarque ou vous posez votre question.
Alors, mon nom est Hélène Agacé. Je suis un public concerné, disons, ni scientifique, ni biologique, ni géologue. En fait, de ce discours-là, moi, il m'est difficile de répondre à la question. En quelque sorte, quand j'entends, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse... Parfois, ça me donne l'impression de faire une profession de foi dans un camp ou dans l'autre. Et ce qui me guide dans ça, finalement, si je veux me donner une réponse, c'est plus la question du principe de précaution. Et je ne sais pas si c'est pas quelque chose qui peut nous guider tous, c'est-à-dire, il y a ceux qui disent non, il y a ceux qui disent trop peu, ceux qui disent trop, mais dans le fond, c'est le principe de précaution qui devrait nous guider.
Merci, madame. Monsieur Le Treut veut réagir.
Il y a une idée complètement fausse de ce que sont les modèles dans nos disciplines, et en fait, en termes scientifiques, c'est quand même une aventure qui est assez extraordinaire et qui a permis de comprendre et appréhender nos systèmes climatiques, souvent avec anticipation sur ce qui s'est passé ensuite. Les modèles, c'est venu d'une idée relativement simple. On voit la nature, elle est organisée, il y a des anticyclones, des dépressions, le Gulf Stream, des tas de choses qui ont l'air de fonctionner selon un mode qui n'est pas chaotique complètement. Et donc l'idée, c'est est-ce qu'on peut reconstruire une planète par la vertu des équations de la physique. Et donc, avec des principes fondamentaux, recréer sur ordinateur une planète qui fonctionne comme la planète réelle. Et cette planète-là, ça a pris des années. Et quand j'ai commencé en ma thèse, la seule question, c'était est-ce que c'était possible ? Mais maintenant, avec un même formalisme, on est capable de simuler le climat glaciaire d'il y a 20 000 ans. On est capable de simuler le climat d'il y a 6 000 ans, quand le Sahara était vert. On est capable de simuler des événements El Niño qui ressemblent aux événements El Niño réels.
Donc, ce que vous dites, Monsieur Trott, vous êtes spécialiste de la modélisation, c'est qu'on a des modèles aujourd'hui qui sont adéquats.
On a une sorte de planète artificielle, une réplique basée sur des équations, basée sur des principes, et qui rend compte de pratiquement tout ce qu'on observe. Bien sûr, le futur, on ne l'a pas encore observé, mais le futur, il rentre dans les principes qui aussi guide ce qu'on a vécu dans le passé, ces mêmes processus. Donc ces modèles, ce n'est pas du tout une vague extrapolation mathématique de ce qu'on a pu observer dans le passé. Ça se base sur des principes physiques. Et c'est la réalité sur laquelle on s'est fondé pour alerter avant que les réchauffements climatiques n'arrivent. Parce que le premier rapport du GIEC, 90, et les premières études dans les années 70, c'était avant qu'on constate des éléments de réchauffement climatique, sur la base de modèles, et la structure du réchauffement, qui est plus fort dans les régions polaires, la structure du changement de précipitation, qui est plus importante à l'équateur, avec au contraire des zones de sécheresse dans les régions tropicales, tout ça, ça a été annoncé avant qu'on l'observe. Donc les modèles ont quand même une vertu qu'on ne peut pas écarter d'un revers de main.
Ils ont une valeur prédictive.
Ils ont une valeur prédictive.
Qui marche.
Qu'on vérifie dans tout un ensemble. Et ces modèles sont interdisciplinaires. J'ai vu que les gens là sont géologues ou sont biologistes. Un modèle, c'est une centaine de personnes qui travaillent ensemble pendant 10 ans et qui viennent de disciplines complètement différentes, des mathématiciens, des physiciens, des biologistes. On est tous ensemble.
Merci beaucoup. On va dans la salle ici, madame, vous présenter.
Bonjour, Fiona Hanley. Je ne suis pas géologue non plus, je suis infirmière.
Oui, allez-y.
Alors, je pense qu'il y a un élément qui manque un peu dans les débats, c'est les questions de santé, qu'on voit quand même, il y a des effets sur la santé actuelle maintenant. Et qu'on voit aussi dans l'avenir que les questions des changements climatiques, qui n'est pas juste le réchauffement de la planète, mais bien d'autres facteurs comme les grandes sécheresses, les événements climatiques beaucoup plus sévères, les manques d'eau, etc., va affecter la santé globale dans l'avenir. Et même le président de l'Association des médecins mondiaux dit que ce sera encore pire que les pandémies qu'on voit actuellement dans notre siècle. Alors, on voit beaucoup d'effets sur la santé qui sera, même si on ne croit pas à l'origine anthropogénique des changements climatiques, que même si on fait tout ce qu'on peut pour mitiger les changements climatiques, ce sera que bon pour la santé humaine.
Je dirais que ce soit pire que les pandémies actuelles, c'est pas
mais
trop
moi,
difficile.
Mais moi, je suis vaccinée, alors j'ai pas trop peur.
Monsieur Duberger.
Sur le CO2, j'aimerais préciser que l'étude du professeur Noor de Bristol vient tout juste d'être publiée dans une revue peer-reviewed Geophysical Research Letters. Et si un scientifique du climat n'est pas d'accord avec ses conclusions, qui sont les suivantes, la proportion de CO2 anthropique dans l'atmosphère n'augmente pas. Qu'elle soit 1850 ou 2009, c'est toujours 43%. Je ne peux pas expliquer ça, mais si un scientifique du climat n'est pas d'accord avec cette conclusion, son devoir, c'est d'écrire à l'éditeur de cette revue scientifique,
peer-reviewed,
de faire un commentaire, et il y aura une reply by the author. Sur les modèles climatiques, je dirais que le professeur Lindzen de MIT a examiné récemment et publié les résultats de l'expérience satellitaire ERBIE, Earth Radiation Budget Experiment. Ils sont en contradiction totale avec 11 modèles climatiques du GIEC. Le résultat du professeur Lindzen, c'est une rétroaction négative, tandis que les modèles climatiques des modélistes nous prévoient des rétroactions positives. Ça veut dire si plus ça chauffe, plus ça surchauffe.
On a une réponse de M. Le Treut à cette intervention-là.
Les 43%, ça n'a rien à voir. Hein. Les 43%, c'est la part du CO2 qu'on émet dans l'atmosphère et qui y reste. Et donc cette part du CO2 qu'on émet dans l'atmosphère et qui reste dans l'atmosphère reste à peu près constante depuis quelques années. Elle a même tendance plutôt à augmenter, elle est passée de 40 à 45%. Mais ça, c'est autre chose. C'est que le CO2 qu'on émet dans l'atmosphère, il y a une partie qui est reprise immédiatement par les océans et par la végétation et l'autre partie qui reste dans l'atmosphère. Et cette part qui reste dans l'atmosphère est en gros à peu près constante, elle augmente depuis quelques années. Et le CO2 émis augmente beaucoup plus rapidement
c'est
que ça.
Oui.
C'est la part de ce qui est émis qui reste dans l'atmosphère qui est constante.
C'est
et
ça.
Donc, et qui suit l'augmentation générale du
et
CO2.
Et ce que je dis, c'est que 43% de 100 millions de tonnes, c'est plus de CO2 42 que 43% d'un million de tonnes.
Exactement. Voilà. Voilà. Je voulais juste dire, oui. les papiers qui ont analysé les résultats du GIEC, il y en a 300 ou 400. Alors, je connais bien Richard Lindzen, il est venu manger chez moi, c'est un ami. C'est une personne qui...
Avec des amis comme ça
qui pense qu'il peut fumer parce que le cancer du poumon, ça n'existe pas. Il aime bien la provocation, mais son papier est sujet à réflexion, on peut dire. Mais alors, je ne dis pas que les modèles sont parfaits, mais on ne peut pas brandir une étude parmi d'autres comme ça.
On y va par là, monsieur, allez-y, vous vous présentez.
Oui. Bonsoir, mon nom est Jean Duberger, je suis ingénieur à la retraite et sceptique. C'est de famille chez nous.
Frère de l'autre, hein?
Ma question s'adresse à M. Letreux. Vous avez parlé de vos modèles qui semblent, en tout cas, coller assez bien à la réalité, sauf que quand on lit la littérature scientifique, on réalise qu'il semble y avoir un refroidissement, présentement, qui dure depuis l'année 1998. Alors, comment vos modèles peuvent expliquer ça?
Réponse de M. Letreut.
En 98, pardon.
Le fameux refroidissement des 10 dernières années, en gros. Là.
Oui, alors en 98, il y a un événement très chaud, un événement El Niño, qui est l'événement du siècle. Et donc la température de 97 à 98 a subi une augmentation monstrueuse qui est due à cet événement El Niño. Alors c'est naturel, juste après, ça a redescendu. L'année d'après, il n'y avait plus d'El Niño.
C'est ça.
Ça a redescendu. Mais depuis, ça réaugmente. Alors on n'est pas revenu au niveau de 98, qui est réellement exceptionnel. Et c'est une manifestation de variabilité a priori naturelle, même si on peut... Mais on n'est pas redescendu au niveau, on n'est pas remonté au niveau de 98, mais depuis on remonte.
Si Toutes on prend la moyenne des années 90...
Si on gomme cet épisode très chaud de 98, qui est un événement El Niño assez anormal, la température continue à monter.
Ici, madame.
Oui, bonjour, mon nom est Gabrielle Smilga-Palardi. Je suis étudiante à la maîtrise en sciences politiques et développement international. Alors, je voudrais relancer un peu le commentaire de la première dame qui a parlé. Elle nous a parlé de précautions. Et moi, je me demande, malgré le débat, est-ce qu'on a vraiment le luxe d'attendre un point final à ce débat? Si présentement, on a certains signes qui nous disent que peut-être on se dirige vers la catastrophe pour des millions de personnes, surtout dans les pays en voie de développement, je me demande, est-ce qu'on n'a pas une responsabilité? Plusieurs parlent de dette environnementale, d'agir. Est-ce que ce n'est pas, au-delà du débat, est-ce que ce n'est pas une opportunité de proposer un nouveau paradigme économique qui est basé sur le développement durable, de proposer le partage de technologies vertes avec les pays émergents? Donc, au-delà du débat, est-ce que ce ne serait pas le moment de me demander un changement?
Stephen Guilbeault.
Je voudrais revenir sur toute la question de ce nouveau paradigme-là. Et c'est essentiellement ce qu'on essaie de faire au niveau des négociations internationales. M. Letreux en parlait tout à l'heure. Entre 1950 et 2000, il y a 20 % de la population du monde qui a contribué à l'accumulation de 60 % des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors, il y a un enjeu de ce qu'on appelle de plus en plus au niveau international de justice climatique. Or, comment on fait, d'une part, pour tenter de rétablir un certain équilibre d'un point de vue nord-sud pour permettre à ces gens-là, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, de se développer, mais sans reproduire notre modèle de développement qui est très polluant à tous les points de vue, hein, que ce soit gaz à effet de serre, pollution de l'air, production de déchets, 20 % de la population du monde produit plus de 50 % des déchets, contamination de l'eau, et ainsi de suite. Et c'est en grande partie l'enjeu de la conférence de Copenhague. Donc, c'est les objectifs de réduction des pays industrialisés. Oui, c'est les efforts que devront faire les pays émergents comme la Chine, l'Inde et les autres. Mais c'est aussi toute cette question-là de la justice climatique, des mécanismes qu'on va mettre en place pour permettre d'une part aux pays en voie de développement de s'adapter parce qu'ils vont devoir s'adapter au changement climatique de façon assez rapide. Vous avez probablement vu sur la télé de Radio-Canada le gouvernement des Maldives qui a tenu la première réunion d'un gouvernement, d'un cabinet sous l'eau pour symboliser l'impact de l'augmentation du niveau de la mer sur les petits pays insulaires. Alors, toutes ces questions-là seront des enjeux très, très importants de la conférence de Copenhague. Et je pense qu'on ne pourra pas sortir de Copenhague sans s'entendre sur ces enjeux-là.
Merci beaucoup. Alors, on va dans la salle. Il y avait ici une main qui avait été levée depuis longtemps.
Oui,
vous présentez.
Pascal Milot, journaliste à Québec Sciences. Je trouvais ça intéressant quand Madame infirmière là-bas a pris la parole parce que j'ai constaté qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions de gens qui sont dans le milieu scientifique, qui sont ici ce soir. J'ai l'impression que ça reflète un petit peu ce qui se passe en ce moment. Nous, quand à Québec Science, on essaie de parler des changements climatiques, on est toujours confronté au problème « comment va-t-on faire pour en parler sans être plate ?» Et j'ai l'impression que c'est un des problèmes que la population surtout dans des pays comme le nôtre où on est quand même encore très, très peu touché directement par les changements climatiques. La population voit les gouvernements débattre en prenant des décisions étranges. Les scientifiques se battent. Les scientifiques sont pas toujours là pour vulgariser peut-être suffisamment dans le grand public. Et moi, je me demande comment on pourrait faire pour que la population, vous et moi, soit un peu plus impliquée, se sente un peu plus concernée encore.
Monsieur ici.
Bonjour, Cédric Béguin, je suis un étudiant au doctorat à l'École Polytechnique. J'ai une question pour Monsieur Letreux concernant le feedback positif du CO2. J'aimerais comprendre quel est le principe de l'effet de serre dans le passé, avant que l'humanité affecte le taux de CO2 dans l'atmosphère. La température augmentait et cette augmentation de température résultait d'une augmentation de CO2. Et vous affirmez que cette augmentation de CO2 elle-même réchauffait la planète. Ça ressemble à un système instable. Pourtant, on avait ensuite des périodes où on avait 10 000 ans de température stable. Quel est le phénomène non linéaire qui stabilise ce système? Et est-ce qu'actuellement, on ne va pas rencontrer également ce même phénomène non linéaire qui stabiliserait le système?
Est-ce qu'on a une réponse, possiblement, en moins qu'un cours de 3 heures?
Oui. Oui, en fait, c'est pas tout à fait ça. En fait, on a effectivement eu 10 000 ans de climat très stable. Les périodes où le climat variait, il y avait d'abord des perturbations astronomiques. La trajectoire de la Terre autour du Soleil est elliptique, elle est perturbée par les grosses planètes. Donc c'est ça qui a d'abord amené les fluctuations climatiques passées. Et depuis 10 000 ans, on est dans un état stable parce qu'il n'y a pas ces perturbations astronomiques. C'est un état un peu particulier. Maintenant, le stabilisateur essentiel du climat, mais on le prend en compte, ce sont les grands déserts. Vous avez un endroit où l'énergie est rayonnée vers l'espace. Vous avez Mars, qui est une planète très froide. Vénus, qui est une planète très chaude. Nous, on a Vénus à l'équateur, Mars dans les grandes régions désertiques, et c'est la coexistence de ces deux régions qui fait qu'on a une planète relativement plus stable et plus habitable que les autres, et ça c'est lié à la rotation de la Terre. C'est la rotation de la Terre qui explique qu'on a des déserts à 30 degrés nord, 30 degrés sud. C'est une merveille de... Mais on prend ça en compte quand on fait nos calculs de réchauffement de la planète.
Alors, je vais demander à Rénald Duberger, ingénieur, professeur de géophysique à la retraite de l'Université du Québec à Chicoutimi. Je vais demander, Monsieur Duberger, vos mots de conclusion.
Je regrette qu'on n'ait pas eu le temps d'aborder tous les sujets que j'aurais aimé. J'aurais aimé parler de volcans, qui, à mon avis, sont des éléments importants dans le climat. J'aurais aimé parler de puits de carbone. J'aurais aimé parler du bâton de hockey, qu'on appelle ici au Québec pour Monsieur Letreux. Il ne sait peut-être pas la crosse de hockey. En France, on sait ce que c'est une crosse. Mais j'aurais aimé parler aussi du Climate Gate, qui est à mon avis une appellation un peu abusive, mais qui est quand même la pointe d'un iceberg et qui nous fait réfléchir sur deux points de vue, à mon avis, très importants. L'importance pour les scientifiques du climat de rendre publiques toutes leurs données, filtrées et non filtrées, données brutes, données traitées, données modélisées, etc., les traitements qu'on leur a fait subir et les raisons pour lesquelles on a fait subir ces traitements. Tant que ça ne sera pas fait, le public a raison de perdre sa croyance dans la foi et la capacité, l'honnêteté des scientifiques du climat. Deuxième constatation, il faut absolument que le processus de peer review deviennent plus sérieux qu'il est présentement.
C'est-à-dire la revue par les pairs,
des articles scientifiques dans des revues qui ont des comités de lecture.
D'accord.
Il faut que ces gens-là soient crédibles, ceux qui font les revues. À l'heure actuelle, on constate dans certains périodiques, dans un clan comme de l'autre, que certains bureaux de révision sont noyautés par soit des entrepôts réchauffistes ou des sceptiques. Il faut que ça change. La personne qui fait la revue doit être absolument neutre.
Stephen Guilbeault, cofondateur d'Équiterre, qui vient de publier au Boréal, alerte le Québec à l'heure des changements climatiques. Vos mots de conclusion, Stephen Guilbeault.
Je pense que ce que je demanderais aux auditeurs et aux auditrices de l'émission de faire, c'est d'aller voir eux-mêmes, d'aller lire les rapports du GIEC qui sont disponibles gratuitement sur le site Internet ipcc.ch. Allez faire votre opinion, regardez l'ensemble des informations et vous allez voir que pour une des études que M. Duberger a citées ce soir, il y en a 100, sinon 150 qui disent, c'est pas plus que ça, qui disent l'inverse. Alors, cette fameuse théorie du complot, moi, je n'y adhère simplement pas. Et de voir aussi que nous pouvons, de façon très prometteuse, changer changer nos façons de faire. D'ailleurs, on parlait du 20 % du Québec tout à l'heure et qu'est-ce que ça va représenter comme sacrifice, je le mets entre guillemets. Ben, l'analyse du ministère des Finances du Québec nous démontre que si le Québec adopte, comme il l'a fait, un objectif de 20 % le revenu disponible des ménages québécois va augmenter. Nous aurons plus d'argent dans nos poches en 2020. Vous allez me dire, c'est de la modélisation, je suis d'accord, c'est pas une science précise. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait plus d'argent dans nos poches en 2020 si on a un objectif de réduction de gaz à effet de serre plus ambitieux? Parce que nous consommerons moins de pétrole, parce que l'économie québécoise va devenir plus performante, nous allons faire plus avec moins, et c'est essentiellement ce à quoi nous a convié Kyoto en 1997 et ce à quoi nous convie Copenhague dans quelques jours.
Vous serez d'ailleurs, Stephen Guilbeault, donc dans quelques jours. Et le dernier mot de la fin, il va à Hervé Le Treut, spécialiste de la modélisation du climat à l'École Polytechnique de Paris, auteur donc d'un livre récent qui vient de sortir, qui s'appelle « Nouveau climat sur la Terre, comprendre, prédire, agir ». Vos mots de conclusion, Monsieur Le Treut.
Oui, alors, juste factuellement, pour en réponse M. Duverger, toutes les données de nos disciplines sont libres d'accès. Et ça, c'est une tradition qui remonte à loin. Ça remonte pour la météorologie à 1873, la création de l'Organisation météorologique mondiale. La distribution des données dans nos disciplines, elle est gratuite, elle est publique, et tant que ça reste public, ça restera gratuit. Et c'est ouvert. Alors, moi, par rapport à tout ce qui a été dit, je crois qu'il faut saisir la dimension réellement international du problème. L'effet de serre, c'est une des manifestations du fait qu'on a des ressources qu'il va falloir partager à l'échelle de la planète. Donc il s'agit là des ressources environnementales, il y a aussi des ressources énergétiques, il y a aussi... Et ce partage, il faudra effectivement qu'il se fasse au nom d'une certaine justice, et on est effectivement aussi dans un système où on a des pays victimes, et je crois que la dimension nord-sud de ces problèmes, elle est essentielle. Il y a un point qu'on n'a pas signalé et qui me paraît important, qu'on n'a pas beaucoup parlé, de l'épuisement des ressources énergétiques qui sont une des données du problème. Ce qu'on demande finalement, ce que demandent les climatologues au nom de la climatologie, mais aussi au nom de ce partage des ressources à l'échelle de la planète, c'est d'économiser. Économiser des ressources, économiser du gaspillage, c'est du bon sens. Donc je crois que la notion d'effort attaché à ça, ce n'est pas vraiment un effort, c'est l'arrêt d'un gaspillage. Ce gaspillage ne peut que profiter à ceux qui ne le font pas.
Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Treut. Merci, Stephen Guilbeault. Merci, Rénal Duberger. Merci à vous, le public, d'avoir participé à ce bar des sciences. Merci au Barouf de nous avoir accueillis. Merci à Québec Science. Merci au Consulat général de France à Québec. Merci à vous tous. Et à une prochaine fois pour une autre édition du bar des sciences. Radio-Canada, Québec Science. Merci beaucoup.
Et voilà, c'est la fin de cette édition des Années Lumière, une émission réalisée par Dominique Lapointe avec à la technique Michel Potvin et pour le bar des sciences, Sylvain Labrec et Alexandre Bélanger. Journaliste Sophie-André Blondin, Hugues de Roussan, Chantal Srivastava, au site internet Lily Marin, chroniqueur Yves Gingras. C'est Yannick Villedieu qui vous parle. Bonne semaine à l'écoute de la première chaîne de Radio-Canada et à dimanche prochain pour une autre édition des Années Lumière. On vous proposera entre autres nos livres cadeaux. Au revoir.